Nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voies et nous permette d'écouter et de parler. Donne-nous, entre les pages ouvertes, d'entrevoir l'ébranlement de notre monde et de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être ralentis dans notre lecture trop rapide, non seulement des Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Alors, dans cette série de cultes du mois de juillet, où nous allons à la rencontre de figures féminines de la Bible, comme je vous l'avais indiqué dimanche dernier, nous allons aujourd'hui retrouver la femme du Cantique des Cantiques. Alors, pour bien faire, il aurait fallu lire tout le Cantique des Cantiques, dans son ensemble, mais c'est un peu trop long pour ce temps de culte, mais néanmoins, ne vous privez pas du plaisir de le lire chez vous après le culte. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose de nous contenter, mais c'est déjà beau, de ces quelques versets entre le verset 2, chapitre 8, et le verset 3, chapitre 5, qui se trouvent sur les petites feuilles que vous avez reçues avec la feuille de culte dans vos cantiques. Ce sera plus facile après pour la prédication. Et donc, c'est elle qui parle, qui commence à parler. Écoutez, c'est mon bien-aimé. Il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle, au fond des biches. Le voici, il se tient derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il épie par le treillis. Il prend la parole, mon bien-aimé. Il me dit « Lève-toi, mon ami, ma belle, et va. Car l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Dans le pays, les fleurs paraissent. Le temps de chanter est arrivé. Et la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Le figuier forme ses premiers fruits. Les vignes en fleurs exhalent leur senteur. « Lève-toi, mon amie, ma belle, et va. Ma colombe, dans le creux des rochers, dans le secret des escarpements, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ton visage est joli. Saisissez pour nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes alors que nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Il paît parmi les lys. Avant que souffle la brise du jour et que les ombres fuient, va et reviens, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle, au fond des biches sur les montagnes escarpées. Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçue. Je vous en adjure, fille de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Cantique des cantiques. En voici des pages de pure poésie, étissées en hébreu d'assonance et d'allitération, et remplies d'images, de descriptions toutes en métaphores, gorgées de senteurs, de saveurs, de couleurs, d'animaux gracieux et bondissants, de plantes luxuriantes. Des pages animées de tellement de mouvements, courses, fuites, échappées, élans, entrelacements, retrouvailles et esquives. Aucun livre des Écritures est plus débordant de sens, de sensations, de sensualité, de frissons et d'intensité que le Cantique des Cantiques. Et tout cela par et pour une femme et un homme. Amant, bien-aimé, bien-aimant, amoureux. De lui, les premiers mots du cantique disent qu'il est Salomon, le roi. Mais un nom qui ne reparaît plus du tout dans la suite du cantique, comme une attribution qui servirait à inscrire la paix, Salomon, c'est la racine, Shalom, inscrire la paix en tête du chant. Elle est désignée seulement presque à la fin du cantique comme une Shulamite, ce qui n'est pas un nom, mais plutôt une origine, celle de la ville de Shulem, dont l'intérêt est d'inscrire aussi le Shalom, Shalom, Shulem, de la paix à l'autre bout du cantique. Et tout au long du chant, à quelques exceptions constituées d'un chœur de voix extérieures, les amoureux se parlent, s'appellent, parlent l'un de l'autre et surtout l'une de l'autre, car c'est sa voix à elle qui est la voix principale. C'est elle qui s'exprime le plus et de la manière la plus personnelle, en première personne, en évoquant son âme. Et lui ne parle que d'elle. Mais le cantique recèle bien plus que de la surprise pour les futurs mariés d'aujourd'hui qui découvrent souvent avec étonnement et toujours avec plaisir que la Bible n'est pas qu'une bibliothèque d'austérité, voire d'ascétisme. Il y a plusieurs manières d'interpréter le Cantique des Cantiques. L'une, fort ancienne, le lit comme une allégorie de la relation entre l'Éternel, le bien-aimé du Cantique, et son peuple Israël, la bien-aimée. Et certes, des prophètes comme Osée évoquent l'alliance entre l'Éternel et son peuple avec des termes de conjugalité, de fidélité et d'infidélité. L'interprétation allégorique a été reprise et transposée par les pères de l'Église et nombre de commentateurs chrétiens qui lisent dans la figure de l'amoureux celle du Christ et dans celle de l'amoureuse, l'Église. Et au filtre de la mystique, l'audace des images du cantique permet de très belles pages, appuyées sur l'image classique du Christ comme l'époux et de l'Église comme l'épouse, à ceci près qu'il n'est nullement question de mariage dans le Cantique des Cantiques. Et c'est peut-être en réaction à ces lectures allégoriques que d'autres préfèrent comprendre le cantique dans une perspective strictement humaine. Il est question d'un couple d'amoureux, d'amants absolument humains, un couple sans mariage, sans perspective de procréation et d'enfants, sans autre que l'amour à chanter, dans l'extrême liberté de ton du poème qui ne raconte pas une histoire, mais célèbre en de multiples fragments le désir et l'amour de l'un pour l'autre, de l'une pour l'autre. Désir et amour exacerbés par l'absence, la distance, la séparation, la quête et toutes les paroles qui avivent toujours la tension de l'attente, la jouissance de la présence et l'urgence du départ. Puisque c'est ainsi que s'achève le cantique, par l'exhortation de la bien-aimée à son bien-aimé, « Prends la fuite, mon bien-aimé, sois semblable à la gazelle ou au fang des biches sur les monts des essences odoriférantes. » Et c'est avec cette même image du bien-aimé sautant et bondissant sur les montagnes et les collines que commence l'extrait que je vous propose ce matin. Mais cette fois, le bien-aimé est attendu et entendu. Écoutez, c'est mon bien-aimé. Il vient. Et la parole de l'amant qui arrive avant lui suscite la bien-aimée. Lève-toi et va. Et il appelle sa bien-aimée en l'enveloppant de fleurs et de fruits, en l'évoquant comme une colombe. Car si la ville est présente dans le cantique, les amoureux se voient l'un et l'autre le plus souvent comme des jardins. L'extrême charme de chacun pour l'autre ne se dit pas avec de l'or ou de l'argent ou des pierres précieuses, mais en fruits, en fleurs, en herbes odorantes, en arbres, en animaux, toute merveille de la nature foisonnante et de jardins luxuriants dont chaque élément exalte la puissance, la générosité, la beauté de la vie. Leur communion d'amour les élargit l'un et l'autre aux dimensions du vaste espace qui les environne et à la multiplicité des vivants qui les entourent. Mais comment en serait-il autrement? Un amour qui confinerait l'aimé en lui-même ou en elle-même serait un amour réducteur, oppresseur, un amour réduit, un manque d'amour, un amour manqué. Et des dizaines de femmes meurent dans ce pays chaque année pour ces amours manqués qui n'en sont pas. Dans le cantique, la femme aimée est un jardin, comme elle est dans un jardin. Et la voici en réponse éclatante au triste lecteur du début du livre de la Genèse, Genèse 2 et 3. Tous ceux qui ont vu et voient encore dans chaque femme de leur temps une figure au mieux seconde et mineure à maintenir dans cet état, ou au pire, une figure quasiment diabolique. Le Cantique des Cantiques représente alors une reprise de Genèse 2 et 3, mais une reprise en grand écart, où la femme, où les corps, la sexualité sont réhabilités et déclarés innocents de toute faute originelle. Ah, inestimable Cantique des Cantiques, puisqu'avec lui, nous voici à nouveau, femmes et hommes, créatures bonnes. Et s'il y a faute, elle ne vient qu'ensuite, dans l'épreuve de la vie quotidienne, dans des relations empoisonnées de domination, de mépris, de violence, de défaut de consentement. Mais le cantique substitue au drame de Genèse 2 et 3 l'amour et la beauté. Le poème ouvre ainsi la possibilité d'un monde autre, et rien n'est plus précieux que cette possibilité, que la vision désirable de cette possibilité. Vers l'encens de notre ère, lors de la constitution du canon des Écritures juives, face à ceux qui souhaitaient en exclure le canon, peut-être pour ses paroles un peu trop crues, un peu trop explicites, eh bien Rabbi Akiba a vraiment eu raison de déclarer « Le monde entier n'est pas digne du jour où le cantique fut donné à Israël. » Si toutes les Écritures sont saintes, le cantique des cantiques est plus saint que les autres. Le cantique chante que tout homme aimé et aimant est beau, que toute femme aimée et aimante est belle, et qu'elle est libre, cette femme, car sa quête et sa fidélité ne tiennent qu'à l'amour et non à une institution, ni à une société, ni à une culture, ni à aucun système, surtout pas patriarcal. Car il n'y a pas d'institution du mariage dans le cantique. La conjugalité ne fait pas l'objet d'un contrat qui les fixerait l'un auprès de l'autre. D'ailleurs, ils ne cessent de se chercher, de se perdre, de s'attendre, de se désirer, de s'appeler, de laisser l'autre repartir. Et Paul Ricoeur qualifie leur lien de nuptial. Et c'est un lien libre et qui ne cesse de rendre l'autre libre. Lève-toi et va. Et il n'y a pas non plus de père dans le cantique. Ces pères dont, au moins à l'époque de rédaction du cantique et puis bien au-delà, ces pères dont dépendent les filles avant de passer sous la dépendance d'un mari. Ces pères qui régissent les affaires, les lois et les destins. Mais il y est question d'une mère, celle de la femme. La mère qui a mis au monde la femme, il est question d'elle, de sa maison, de sa chambre, comme un écho, un rebondissement de naissance autre que biologique, et qui met au monde l'aimé dans un monde nouveau et merveilleux, comme un être nouveau et merveilleux, car bénéficiant d'un nouveau regard et d'une nouvelle confiance qui l'envoie, beau ou belle, et libre, dans une vie nouvelle. La profonde et magnifique humanité dont témoigne le cantique recèle une spiritualité ne devant rien à l'allégorie qui néglige trop l'humain en lui substituant le divin. Mais il y a cependant plus que de l'humain, plus que de l'humanité dans le cantique, car il témoigne du divin au cœur de l'humain, au creux de la relation d'amour. Et certainement, pas seulement dans la relation d'un couple, mais celui-ci est emblématique de la merveille de l'amour et en creux de ses dérives malheureuses, terribles, meurtrières. Celles et ceux qui s'aiment, et celles et ceux qui aiment de l'amour qui libère sont des paraboles de Dieu. Qui se tient à l'origine de tout amour, ce dont le cantique rend compte d'un demi-mot, mais cela suffit, un demi-nom au chapitre 8, en qualifiant l'amour fort comme la mort de flamme de Yah, abréviation de Yahvé, le nom du Dieu d'Israël, qui est le Dieu de Jésus-Christ. L'amour qui rend la vie vivante et trace souffle et éclat de Dieu. Il est présence de la transcendance dans le monde et cette confession réjouit l'existence. Sans cette reconnaissance essentielle, tout amour et toute vie dérivent en consommation, en domination, en prédation et ne sont plus ni amour ni vie, mais saccage comme le saccage des vignes en fleurs, comme les petits renards du cantique. Une image un peu étrange, hein, parce que les renards ne mangent pas les fleurs des vignes. Mais cependant, nous pouvons comprendre qu'ils représentent ces petits renards, ces petites choses du quotidien, qui abîment et empêchent la réjouissance de la beauté et de la bonté. Et nous comprenons que nous pouvons les débusquer et les empêcher de nuire. Et c'est la femme du cantique des cantiques qui est la voix émerveillée de cette reconnaissance essentielle de Dieu dans l'amour. Femme vivante, comme une Ève restaurée, restaurée en grâce, puisque Ève, le nom Ève, signifie la vivante. Oui, l'hiver est passé, la pluie a cessé. Le temps de chanter est arrivé. La floraison de la terre symbolise celle de la vie des vivants qui se laisse entraîner par la voix, semblable à celle de la colombe, de cette femme vivante. Nous sommes tellement plus que notre vie biologique. Nous sommes appelés à tellement plus qu'assurer notre survie matérielle, y compris aujourd'hui en ce temps. Parce que nous sommes humains, nous sommes ces humains-là, ces humains du cantique, des cantiques. La réduction au biologique et au matériel défait, abîme, en colère, désespère tant d'hommes et de femmes. Et ce destin affligeant, c'est le contraire, c'est même la négation de notre vocation à tous. Et dans la texture splendide du cantique, mots, images, chants, poésie, se lève une force de restauration du monde, restauration des êtres, restauration des relations, vers la paix, pour la paix, Salomon, Soulamite, un véritable réapprentissage des relations, non pour un retour à un commencement mythique, mais pour un devenir, un avenir pour chacun. C'est le chant de la vie aimée et de la vie aimante, une existence signifiée par la conversation, le dialogue toujours poursuivi des amoureux, par les mouvements incessants de l'un et de l'autre, les gazelles et les fans bondissants, et par la femme qui ne reste pas dans son lit, statique, en tête à tête avec elle-même. Pendant les nuits, sur mon lit, j'ai cherché celui qu'aime mon âme, et je ne l'ai pas trouvé. Ce n'est pas dans une rumination du passé, dans une nostalgie de ce qui n'est plus, ni dans les échecs, les inquiétudes et les chagrins, tout ce qui fait nuit, obscurité et ténèbres intérieures et dans le monde. Ce n'est pas non plus dans un refuge, comme un repli, comme une retraite, que nous trouverons ce dont notre âme a besoin de dynamique, de courage, d'audace pour ce temps. Car notre âme aspire à l'éternité. Alors aller dans les rues, dans les places, faire les tours de la ville, quitter l'abri pour aller de rencontre en rencontre et chercher le sens, l'amour, la beauté, et puis dépasser les gardes, les gardiens, les pères, les contrôles, les maîtrises, les définitions, les répétitions, les conventions, le même, tout ce qui ferme, enferme et enclos. Il y a une transgression continuelle dans le cantique des cantiques, une transgression de tout chant de l'amour, de toute célébration de la vie, une transgression qui est passage au-delà, en avant. Transgression de l'hiver, de la froideur et de la stérilité du monde et des relations pour passer à l'épanouissement des couleurs, des saveurs, des senteurs, pour une convivialité poétisée en fleurs, aromates, fruits, épices, dont le cantique offre une éblouissante diversité. Transgression aussi des identités ordonnées par la culture, la société, la religion et les pères, au profit de la paix, cette paix déposée dans le nom de Salomon, dans la désignation de la femme comme Soulamite, et au profit de la liberté exprimée par toutes les métaphores qui déploient, qui décalent, qui délient, qui rendent léger et légère et animée et qui soulèvent en gracieuseté et en grâce. Transgression également des destins assignés, des esclavages de toutes sortes et même de la mort, de cette mort qui est de ne pas se reconnaître, de ne pas être reconnu vivant. Et cette transgression-là porte dans la Bible le nom de Pâques. Ce à quoi aspire l'âme se trouve en l'autre, dans la relation d'amour à l'autre, et sa source est en celui qui est caché en tout amour, Dieu qui ne s'impose pas, mais Dieu reflété dans l'amour véritable qui ne fait jamais de l'autre, femme ou homme, un objet, une proie, une possession, mais qui le délivre et qui l'envoie. Va. La transcendance n'est pas séparée de nous, ni lointaine. Elle est à la racine de l'aspiration à vivre. Elle est l'aspiration à vivre et l'inspiration qui rend vivant et qui maintient en vie. Dans le cantique, tout est dit à partir de l'amour. Où se tient le divin? C'est l'amour qui est le lieu d'énonciation, le lieu des métaphores, le lieu de la poésie et le lieu de l'existence. Ni l'homme ni la femme ne sont parfaits, en dépit de la manière dont ils se voient l'un et l'autre. Ils ne sont pas parfaits de manière absolue et en eux-mêmes, mais à partir de l'amour, depuis l'amour. C'est le regard porté sur l'autre qui le rend singulier et merveilleux, qui la rend singulière et merveilleuse, d'une beauté qui n'est pas une beauté physique, mais la beauté qui naît d'un contact, d'une communication avec l'éternité, avec l'éternel présent dans l'amour. En lisant et en méditant le cantique, à écouter ces voix qui se lèvent obstinément, nous pourrions dire avec le prince Mishkin, le personnage principal du livre de Dostoïevski, l'idiot, nous pourrions dire « La beauté sauvera le monde ». Mais bien, bien avant l'écrivain russe, c'est cette femme aimée et aimante, cette femme vivante qui le chante pour chacun de nous. Et avec elle, grâce à elle, ne le croirons-nous pas, enfin. Amen.